Alors que le déconfinement commence petit à petit, Micro Rebelle a interviewé Souad, une étudiante de Lille syndiquée à Solidaire, pour nous parler des conditions de vie et de travail des étudiants et étudiantes pendant le confinement et des perspectives pour elles et eux dans les semaines à venir. Elle nous parle de solitude, de violence, de précarité, de fractures numériques et des difficultés rencontrées avec des enseignants-enseignantes et la direction universitaire.
Je m'appelle Souad, je suis en master à l'IEP de Lille, en alternance, donc je travaille en même temps dans le domaine culturel, et je suis syndiquée à Solidaire étudiante Lille.
Nous, on s'intéresse aux conditions de confinement pour les étudiantes et étudiants, et on s'est rendu compte que c'était pas toujours évident, notamment pour les personnes qui restaient en chambre universitaire, mais pas seulement. Est-ce que tout d'abord, tu connais un peu en général les conditions de confinement pour les étudiantes et étudiants de Lille ?
C'est très variable. Effectivement, il y a les personnes qui sont confinées en résidence où c'est très compliqué. Ça a été particulièrement compliqué au début du confinement, notamment dans les résidences avec des espaces collectifs, donc avec des cuisines ou des salles de bain et où il n'y avait pas de matériel de désinfection à disposition. Certains espaces collectifs ont été fermés pour éviter les contagions, mais du coup, pas de cuisine pour cuisiner, c'est compliqué. Enfin, pour manger, tout court. Avec la fermeture des restaurants universitaires en plus, donc ça faisait des coûts supplémentaires. Donc ça a été très, très compliqué au début. Ça reste compliqué, ça l'est un peu moins parce qu'il y a du matériel qui a été mis à disposition. Il y a des assos qui ont commencé à faire des livraisons de colis alimentaires pour les étudiants, mais ça améliore qu'à la marge, finalement, les conditions de confinement. Puis rester enfermé tout seul dans un 9 mètres carrés, c'est toujours moins pratique et moins agréable que dans un appart un peu plus grand. Donc ça, c'est le cas dans les résidences. Après, en dehors des résidences, y a toujours les étudiants qui sont du coup seuls. Donc il y a le souci de la solitude et de se retrouver avec soi-même pendant 2 mois. Et ceux aussi en coloc qui doivent se supporter avec des personnes qui fréquentent pas forcément H24 de manière habituelle. Et après, il y a aussi des personnes qui se retrouvent dans des colocs avec tout le monde qui est parti à deux dans 100 mètres carrés. Donc, il y a des conditions aussi qui peuvent être moins pires, mais qui sont très à la marge.
D'accord. Ça, c'est pour la question de logement. Pour la question du travail, que ce soit le travail universitaire ou le travail salarié, est-ce que tu peux un peu revenir là-dessus, les conséquences de ce confinement sur ces deux types de travail ?
Sur le travail salarié, ce qui se passe généralement pour les étudiants en grande majorité, c'est que c'est du travail au black. Donc c'est des babysitting, des cours, des extras dans des bars. Et forcément, il y a tout qui se casse un peu la gueule, qui ne fonctionne plus. Et du coup, il n'y a pas d'aide de l'État parce qu'en fait, c'est pas déclaré. Donc il y a une perte de revenus qui est immense. Et donc c'est ce que je disais sur les difficultés à s'alimenter notamment. C'est qu'en fait, il y a des étudiants qui se retrouvent sans ressources à devoir payer des loyers. Donc, ça a été très, très compliqué pour ces étudiants-là, qui sont quand même très, très nombreux. Et pour le travail universitaire, c'est une question de fracture numérique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein d'étudiants qui n'ont pas d'ordi, qui n'ont pas un Internet qui soit solide, notamment en résidence. En fait, Internet dans les résidences, c'est de la grosse merde. Ça coupe tout le temps, il y a beaucoup de monde qui est connecté, surtout, tout le monde est enfermé chez soi, donc tout le monde utilise Internet. Et du coup, il y a des coupures assez fréquentes. Enfin, quand on fait des réunions à distance avec le syndicat et ceux qui étaient en résidence, ça coupait toutes les 2 minutes. On ne pouvait pas tenir une discussion pendant ne serait-ce que 10 minutes qui soit suivie, quoi. Donc pour suivre des cours à distance, que ce soit des cours directement sur des plateformes ou même rendre des devoirs, télécharger les différents documents de cours, c'était une galère pour ces étudiants-là. Donc il y avait une inégalité énorme, et il y a une inégalité énorme dans l'accès au numérique et à Internet pendant le confinement de manière générale, qui n'a pas du tout été pris en compte par les universités.
Tu parlais de solitude tout à l'heure. Est-ce que tu aurais quelques mots à dire concernant les étudiantes et étudiants dont la famille habite loin et qui du coup n'ont pas pu revenir chez elles et chez eux ?
Ça a dû être particulièrement compliqué. Je pense que ça a été d'autant plus compliqué pour les étudiants étrangers et étudiantes étrangères qui se retrouvent enfermés entre quatre murs sans forcément avoir une sociabilité forte dans les résidences et qui, euh, et qui du coup peuvent pas rentrer chez eux. Et pareil pour ceux qui vivent dans le sud enfin moi j'ai dû rester aussi sur l'île parce que je travaille en télétravail, mais que je ne savais pas quand est-ce que je vais potentiellement reprendre en physique. Donc c'est le lien avec les proches a dû être, pour ma part, a été très compliqué, et je pense que ça a dû être compliqué pour beaucoup d'étudiants.
Alors, j'ai vu sur le site, sur votre site internet, donc Solidaires étudiants-étudiantes de Lille, que justement la section IEP avait fait un questionnaire à destination des étudiantes et étudiants pour voir un peu les conditions de confinement. Alors, je ne sais pas si tu as fait partie de la mise en place de ce questionnaire, mais est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ça, brosser un peu un paysage des réponses, quoi, de qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce que vous en retirez en fait?
Alors moi, j'ai suivi un peu de loin la mise en place de ce questionnaire, j'ai lu les résultats. Ce qui est assez impressionnant, c'est que finalement, les difficultés, même dans un IEP où généralement, faut dire ce qu'il y a, les étudiants sont quand même un peu plus favorisés qu'à l'université, ça reste très compliqué. Nous, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est notamment les violences intrafamiliales. On a eu quand même, il me semble, un peu moins d'une vingtaine de réponses disant qu'il y avait eu des violences en retournant se confiner chez elle. C'est un truc qui nous a assez retourné, donc on a essayé de faire ce qu'on pouvait aussi là-dessus. Mais oui, les résultats sont assez explicites et pareil, enfin pas du tout pris en compte par l'administration de l'IEP. Il y a eu aucune, enfin. Il y a des ordinateurs qui ont été mis à disposition pour des problèmes de fracture numérique, notamment. Mais du coup, ça marche pour les étudiants qui sont restés à Lille. Et il n'y a aucune prise en compte de l'impact moral et mental de confinement sur les étudiants. C'est-à-dire qu'on est censé avoir un temps, enfin un temps infini pour faire les choses. Et le fait que l'isolement, la situation de stress, d'angoisse soit présente, on s'en fout, quoi. C'est comme si on était en cours. De manière classique et que juste c'était dématérialisé.
Et alors justement, par rapport à tout ce que tu dis, est-ce qu'il y a des revendications d'étudiants et étudiantes via des syndicats ou des collectifs sur ce qui aurait dû être mis en œuvre, soit par les directions d'université, soit par d'autres biais, pour justement faire attention à que ce soit l'accès à l'alimentation ou faire attention aux questions de violence dont tu parlais, ou un peu une attention aussi aux difficultés psychologiques dont tu parlais, dues à la solitude.
Alors sur la question de la solitude, je pense que c'était très compliqué à mettre en place enfin, ça a été compliqué que ce soit pour les étudiants ou pour tout le monde en fait. Je pense que c'est le confinement a été très dur mentalement pour quand même une grosse partie de la population. Après, sur des choses concrètes qu'aurait pu mettre en place l'université ou le CROUS, par exemple, c'est ce qu'on a revendiqué au début du confinement, le fait de valider les semestres tout de suite pour éviter justement qu'il y ait un poids supplémentaire sur les étudiants. De devoir se battre pour se connecter, pour pouvoir rendre des choses alors que ça va pas forcément. Pareil, qui n'a pas du tout été entendu pour ce qui est des distributions alimentaires, juste maintenir les restaurants universitaires et leur ouverture. Et le fait que voilà, il y en ait beaucoup qui est fermé, ça a été très compliqué pour des étudiants en difficulté financière. Enfin, il y a aussi des choses qui sont mises en place parfois par le CROUS qui vont créditer un certain montant pour que les étudiants puissent alimenter un restaurant universitaire. Bah, pour ces étudiants-là, du coup, il n'y avait plus cette possibilité d'alimentation financée et ça a été particulièrement complexe et ça a creusé la précarité et les inégalités. Après, enfin, je pense qu'aussi un accompagnement et une écoute de la part des corps enseignants et des différents UFR auraient pu permettre d'éviter aussi toute cette accumulation de charges mentales et d'angoisse chez les étudiants.
Et pour les loyers aussi, par exemple, que ce soit dans
Pardon,
le
ouais,
privé
pour les loyers.
ou...
Oui, pardon, j'ai pas toute la liste en tête.
Non,
Mais
non, pas de
effectivement,
souci.
pour les loyers, c'était une des revendications même nationales qui a été portée au niveau du CNUS, donc qui est le CRUS national, de la suspension totale des loyers jusqu'à la fin du confinement, ce qui a été partiellement fait pour les étudiants qui partaient, mais du coup, pour ceux qui sont restés, on s'en fout, ils se démerdent. Et pour même ceux qui sont partis, là, il y a une nouvelle directive qui a été mise en place, qui est de, en fait, si le 18 mai, les chambres n'ont pas été vidées, soit les personnels des CROUS viennent dans la chambre et virent toutes les affaires, soit les étudiants doivent recommencer à payer leur loyer à partir du mois de mai. Donc, clairement, enfin, les décisions prises vont à l'inverse de ce qu'il faudrait mettre en place. Favorise aussi la circulation du virus parce qu'ils obligent les étudiants à revenir dans leurs universités pour vider leurs chambres. Et derrière, on a des promesses gouvernementales de 200 balles pour l'ensemble du confinement qui sont complètement marginales et qui ne paient même pas un loyer. Donc, c'est absurde et c'est du foutage de gueule en fait. Enfin, on est sur du grand foutage de gueule.
Tu veux dire qu'il y a un grand décalage entre les grandes promesses qui ont été faites, que ce soit par surtout par le gouvernement, et puis la mise en place sur le terrain?
Ouais, c'est ça. Bah après, c'est pas forcément sur des grandes promesses et une mise en place de terrain. C'est que concrètement, le gouvernement, au début du confinement, disait qu'il y aurait des solutions, qu'il y aurait des solutions pour tout le monde et que ça allait bien se passer. Ce qu'on constate dans ce qui finalement a été mis en place par le gouvernement, c'est qu'il n'y a absolument aucune adaptation et aucune prise en compte des réalités de terrain. Et sur les réponses même financières, la grande annonce du gouvernement récemment, c'est 200 euros pour les moins de 25 ans, parce que quand tu es étudiant, forcément, tu as moins de 25 ans, puis quand on a plus, ça va, financièrement, tu es tranquille. Sauf que généralement, c'est aussi dans ces âges-là que les étudiants ne sont plus financés par leur famille. Donc c'est aussi des étudiants très précaires, et qui souvent font des tafs à côté, qui du coup n'ont plus de taf. Donc, en fait, on est sur des choses qui sont complètement en déconnexion avec la réalité de terrain. Et après, même localement, en fait, ce qui est mis en place, c'est extrêmement marginal. Ce qui est assez hallucinant, c'est que c'est souvent aussi du jetage de fleurs. Enfin, le CROUS du Nord, c'est ça. On fait plein de choses. Là, ce qu'ils ont décidé, c'est un sujet un peu différent, mais sur une des résidences gallois, qui est une des plus insalubres des résidences de la MEL, de la métropole lilloise, ils ont décidé donc de vider un des bâtiments qui a une fuite d'eau là depuis un petit moment. Je pense que ça a dû être réglé depuis, mais qui a une fuite d'eau pendant 2-3 jours. Donc les couloirs étaient inondés. Ils ont décidé de vider la résidence et ils disent c'est bon, on a la solution, c'est vidé. On propose un relogement qui est 90 balles de plus par mois, on propose un relogement, du coup on a la solution. Donc, pour des étudiants qui galèrent déjà à payer leur loyer 270 euros par mois. Donc on est sur des réponses à chaque fois qui sont... ils s'auto-congratulent d'avoir fait des choses qui finalement mettent encore plus dans la main des étudiants, quoi.
Ouais, c'est pas du tout adapté, quoi, en fait.
C'est ça. Je trouve ça complètement hallucinant, la déconnexion par rapport aux réalités matérielles des étudiants et les décisions prises sont complètement hallucinantes.
Mmh. Donc là, aujourd'hui, le jour de notre entretien, on est le lundi 11 mai, qui est le début du déconfinement. Comment ça va se passer concrètement pour les étudiantes et étudiants ?
Ça reste très flou. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de retour à l'université, dans les locaux en tout cas, jusqu'à la rentrée prochaine, si ce n'est encore après la rentrée prochaine. Il y a des annonces gouvernementales qui annoncent une non-réouverture des locaux en septembre. Donc on part sur quelque chose qui se pérennise au niveau des télécours et des téléévaluations, ce qui est assez flippant vu comment ça n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est sur les universités, mais on reste dans le flou. Et en fait, tout le monde est dans le flou. Enfin, on sent que le gouvernement est dans le flou, on sent que les universités sont dans le flou. Tout le monde navigue à vue et du coup, ça augmente aussi l'angoisse des étudiants. Sur les demandes dans les universités pour les masters ou les licences, pareil, il y a aucun décalage d'échéance. Donc du coup, les étudiants qui n'ont pas accès à des ordi, qui sont, enfin, on a des histoires d'étudiants qui ont fait leur dissert sur leur téléphone. Donc pour faire une demande, une candidature sur un téléphone, c'est quasi impossible. C'est très flou. À ce niveau-là, sur les résidences et les demandes de bourse, il n'y a pas de décalage non plus d'échéance, avec un site qui bug à fond depuis une semaine. Donc pareil, sur les demandes de bourse, on ne sait pas comment ça va se passer, s'il va y avoir des décalages d'échéance ou pas. A priori, non. Pareil pour les résidences, demandes en résidence, on ne sait pas comment ça va se passer, quels critères vont être choisis. Là, il y a plusieurs résidences qui ferment à Lille, donc il y aura sûrement moins de places. Donc, du coup, plus d'étudiants dans la mer pour trouver des logements. En vrai, on est un peu sur un scénario catastrophe pour l'année prochaine et les mois à venir. On n'est pas très confiant sur ce qui va se passer par la suite, surtout dans la mesure où on n'est absolument pas écouté. Et on se fout de notre gueule, littéralement, quand on demande des mesures efficaces, quoi.
Tu veux dire que votre syndicat, donc Sud étudiants et étudiantes, est allé à la rencontre de la direction, c'est ça?
Alors en fait, on siège à différents conseils. Donc on a fait différentes propositions dans des conseils pour justement notamment des propositions par exemple sur les évaluations synchrones où tous les étudiants passent leur examen en même temps, ce qui crée des bugs de plateforme qui est super compliqué quand on n'a pas un accès permanent à un ordinateur, etc. Ça c'est une des propositions qui a été faite avec une proposition d'un 12 améliorable pour valider le semestre. Ce qui a été fait dans ce conseil, donc c'est la CAVU, donc où sont votés les règlements pour les examens. Donc on a déposé des motions pour changer le plan de continuité pédagogique de l'université, proposé par l'université. Les motions n'ont même pas été mises au vote, parce qu'on n'a pas demandé qu'elles soient mises au vote. On les a envoyées, on n'a pas dit « excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut les voter ?» Et du coup, ils n'ont pas été mises au vote. Clairement, on nous a dit, pour le dire un peu crûment, de retourner jouer avec notre caca. Il n'y a aucune prise en compte de revendications étudiantes. Et donc là, la seule solution qu'on ait trouvée, c'est de faire un recours au tribunal administratif contre les décisions prises par l'université. Ce qui nous a pris 3 semaines et énormément de temps et de travail. Et très franchement, on a autre chose à foutre, genre se concentrer sur nos évaluations, sur nos examens qui ne sont pas adaptés. Mais on l'a quand même fait. Et donc là, on attend le retour de délibération le 13 mai. Mais les seules manières d'être entendues, et encore, en tribunal administratif, on n'a pas tellement espoir que ça passe, c'est de passer par des voies juridiques qui sont ultra énergivores et qui sont pas du tout prioritaires, qui devraient pas être prioritaires, quoi.
Mmh. Et là, pendant toute cette période de confinement, est-ce que vous avez eu des appels d'étudiants et étudiantes? Est-ce que vous avez observé peut-être plus d'appels que d'habitude, des appels qui concernent plus justement ces situations précarisées?
Alors, on a reçu pas mal de demandes par mail d'étudiants qui nous ont envoyé des échanges mail complètement délirants avec des enseignants qui ne comprennent pas leur situation, notamment des situations de handicap, parce qu'il n'y a pas eu de centralisation du traitement des situations de handicap. Donc, c'est chaque enseignant qui devait adapter. Donc c'était quand même un peu compliqué à gérer pour elle. On a eu pas mal de retours aussi sur les CROUS. Les résidences CROUS, il y a eu énormément de choses qui ont été dites, soit qui nous ont été envoyées directement, soit il y a différents étudiants aussi qui font pas partie de syndicats ou de collectifs qui suivent beaucoup ce qui se passe dans les résidences CROUS, notamment Gallois, qui ont fait énormément de taf sur ces résidences-là et qui du coup ont eu aussi beaucoup de retours sur la situation des étudiants là-bas, que ce soit des coupures de chauffage, des fuites d'eau, des coups de pression de plusieurs directeurs sur des résidents qui venaient se plaindre. On a eu quand même énormément de retours très 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 alarmants et aussi un sentiment de rien pouvoir faire, quoi. En étant confiné chez soi, de se dire finalement qu'est-ce qu'on peut. À part envoyer des mails ultra vénères et passer des coups de fil en disant c'est n'importe quoi. C'est compliqué en fait de mettre en place des actions.
Eh ben, merci beaucoup. Peut-être donner un contact où on peut vous joindre par mail ou par téléphone, je ne sais pas.
Yes, alors par mail, c'est sud.lille.étudiant arrobase@gmail.com. Sinon, on peut nous contacter aussi sur directement sur notre page Facebook Solidaire étudiante Lille, par message directement. On est assez réactif. Mmh. Enfin, mail et Facebook, on répond aux deux assez rapidement.